Elle était comment, la voix de Rimbaud, Dominique Nogaz?
Si on en juge par le témoignage de ceux qui l'ont approché et qui ont écrit ensuite, Verlaine ou Delahaye, on peut en déduire qu'il a eu au moins deux voix, d'après Delahaye. Delahaye l'a revu pour la dernière fois en 1879, quand il était déjà le deuxième Rimbaud, celui qui est parti. Et il dit qu'à ce moment-là, il a une voix qui est devenue une voix adulte et qui n'a plus la nervosité enfantine de la voix de l'adolescent. Ce qu'on peut savoir par ce que dit Delahaye, c'est que il disait les vers d'une façon peu conventionnelle, ses propres vers. Alors, c'est d'une façon générale quelqu'un qui a une voix émotive, qui est quelqu'un de très émotif, qui peut être capable de, quand il daigne parler, parce que vous savez qu'il était réputé pour rester pendant des heures comme ça, sans rien dire, et même ça pouvait aller jusqu'à une certaine goujaterie. Mais quand il parle, et ça peut être si tout d'un coup l'émotion, enfin, il s'emballe et il a une voix d'émotif et il balbutie, il marmotte, dit Delahaye à certains moments. Il a une façon de rire aussi très particulière. Alors là, si on met bout à bout les témoignages de Delahaye et de Verlaine, on a cette description qu'il s'agit d'un tout sautement bref, c'est Isambard ça qui dit ça, son professeur, un gloussement, dit Delahaye, comme un enfant qui pouffe derrière une porte.
À moi, l'histoire d'une de mes folies.
Une vie, une œuvre, Arthur Rimbaud, où la dernière innocence et la dernière timidité, c'est dit.
À ma sœur, Louise Van Aen de Voringhem, sa cornette bleue tournée à la mer du Nord, pour les naufragés. À ma sœur Léonie au bois d'Ashby, Baou, l'herbe d'été bourdonnante et puante, pour la fièvre des mères et des enfants. À Lulu, démon, qui a conservé un goût pour les oratoires du temps des amis et de son éducation incomplète. Pour les hommes, à madame, à l'adolescent que je fus, à ce saint vieillard, ermitage ou mission.
Il y a un poème obscur, mais comme la plupart des autres, je veux dire une page des Illuminations, c'est la page Dévotion.
Michel de Guy.
Alors Dévotion, c'est plein de noms propres. Donc, pour les exégètes, c'est toujours qui est ici pseudonymisé ou hétéronymisé ou de qui s'agit-il. Ben, je voudrais faire deux remarques au moins à propos de Dévotion. Premièrement, il ne faut pas oublier donc que Arthur Rimbaud était un latiniste. Et c'est très important. Et Dévotio en latin, et il y a une page de Dumézil qui est très belle là-dessus, cela désigne un acte et un moment précis. C'est quand un général à la tête de ses troupes va être perdu sans que tout lui échappe et qui se jette au cœur de la mêlée pour mourir en exécrant, c'est-à-dire en invoquant tous les dieux et essaye de renverser le cours de la bataille par une espèce de sacrifice énorme. C'est ça la dévotio. Bon, alors, d'une part, je fais appel à de l'érudition, ce qui renvoie aux années de jeunesse et de formation d'Arthur Rimbaud, et d'autre part, comment prendre dévotion à notre usage ? Je crois qu'il faudrait essayer d'imaginer un projet de film avec dévotion. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Au fond, je lis dévotion comme s'il s'agissait de l'Ève future d'Arthur Rimbaud. C'est-à-dire, puisqu'il s'agit de femmes, je ne cherche pas, je ne me demande pas est-ce que Léonide était une de ses petites copines du lycée ou des enfances, je ne sais quoi, mais plutôt, est-ce qu'il est en train de faire le tour de la condition féminine, parlant ici de la mère, ici de la fille, ici de la sœur, ici de la compagne, et est-ce qu'il est en train de, dans le même geste d'ailleurs d'exécration que je disais tout à l'heure, mais est-ce qu'il est en train d'imaginer une Ève future, c'est-à-dire de répondre à la question de la féminité, c'est ça qui m'intéresse. Et alors, déployer dévotion dans notre aujourd'hui, recourir à ces textes que pour imaginer une femme d'aujourd'hui ou une femme future, c'est ça qui me paraît intéressant. Vous voyez, comme schéma un peu général sur dévotion, mais c'est ça, l'usage de dévotion serait ça pour moi aujourd'hui.
Ver erat et morbo Romae languebat inerti orbilius. C'était le printemps, et Orbilius souffrait à Rome d'une maladie qui l'empêchait de bouger. Diri tacuerunt tela magistri, plagarumque senus non jam veniebat ad aures. Les armes d'un professeur impitoyable firent trêve. Le bruit des coups ne sonnait plus à mes oreilles. Nec ferula assiduo cruciabat membra dolore. Et la férule ne tourmentait plus mes membres d'une douleur continue.
Le jeune écolier qui trace en une heure 60 hexamètres dactyliques, impeccable, magnifique,
Alain Borer,
se reconnaît poète parce qu'il y a des colombes qui viennent le désigner alors qu'il est allongé au bord d'un fleuve et lui apportent une couronne en disant « Tu vates eris, tu seras poète ». Mais
c'est « on me pense », c'est la même chose.
Tout à fait, « on me pense », oui, ce n'est pas de sa faute, il est plus
il est
sensible,
désigné.
Il est désigné pour être plus, en étant plus sensible, avec la mission d'accomplir cette poésie, c'est-à-dire de la rendre réelle. Et la rendre réelle, ça serait se débarrasser d'abord de la poésie, dans ses formes anciennes, mais aussi de la réaliser.
Les poètes de 7 ans, et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait, satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances.
Un mot, c'est la bouche ouverte. Non, la bouche ouverte est une voyelle.
Voyelle. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Ô suprême clairon, plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô l'oméga, rayon violet de ses yeux.
La chambre est pleine d'ombre, on entend vaguement de deux enfants le triste et doux chuchotement. Il y a un vers de Victor Hugo qui dit « la chambre est pleine d'ombre ». Mais ce qui est important, c'est que dans chaque syllabe, on entend « en ». La chambre est pleine d'ombre, on entend vaguement de deux enfants le triste et doux chuchotement. Et c'est un poème qui répète « maman ». Et c'est un véritable paragramme qui est reproduit 98 fois sur 110 vers. Et qui exactement est un travail que l'on pourrait dire comment dialectique, en tout cas qui surpasse son modèle. Ce phénomène se produit dans chaque poème jusqu'en 1873 où Rimbaud est le premier poète de la langue française qui travaille sans modèle.
Charleville, Ardennes, le 24 mai 1870, à Monsieur Théodore de Banville. Cher maître, nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans. L'âge des espérances et des chimères, comme on dit. Et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes. Moi, j'appelle cela du printemps. Ne faites pas trop la moue en lisant ces vers. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais un amour immense entrera dans mon âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme.
Ne pas oublier qu'Arthur Rimbaud a passé sa vie à marcher. Et c'est même pas les traces, mais enfin disons, les poèmes en sont très nombreux, c'est-à-dire c'est le moment de la perception à l'aube ou au contraire le moment de la nuit dans le bois et il dit simplement, c'est-à-dire une perception ou un percept affect qui est lu dans la circonstance et qui dépose sa nomination dans des poèmes en prose très simples.
À Georges Isambard, Charleville, le 25 août 1870. Monsieur, vous êtes heureux, vous, de ne plus habiter Charleville. Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province. Sur cela, voyez-vous, je n'ai plus d'illusions. Rien, rien. Le courrier n'envoie plus rien aux libraires. Paris se moque de nous joliment. Pas un seul livre nouveau. C'est la mort. Me voilà réduit en fait de journaux à l'honorable courrier des Ardennes. propriétaire, gérant, directeur, rédacteur en chef et rédacteur unique à Pouillard. Ce journal résume les aspirations, les vœux, les opinions de la population. Ainsi jugé, c'est du propre. On est exilé dans sa patrie.
Comment est-ce que Rimbaud aborde Paris ? Par quel chemin ?
D'abord à pied, plusieurs fois, et en conquérant aussi.
À Paul Demny, Charleville, 15 mai 1871. J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. Je commence de suite par un psaume d'actualité. Chant de guerre parisien. Ils ont shako, sabre et tam-tam, non la vieille boîte à bougies. Et des yoles qui n'ont jam-jam fondent le lac aux eaux rougies.
C'est Gavroche après l'heure, non ?
Oui, il y a un immense espoir dans la vie de Rimbaud qui coïncide avec sa maturité poétique de 1871 et avec l'explosion de la Commune. Il y était préparé par la lecture de Rousseau, par celle de Helvétius, par tous ces hommes politiques aussi dont il lisait les textes en marchant dans la campagne ardennaise, et notamment probablement Blanqui, davantage, surtout Blanqui, ou Proudhon, mais en tout cas Blanqui. Alors, lorsque la Commune éclate, il y a miraculeusement pour lui, en quelque sorte, quelques semaines, la conjonction de son ambition poétique, qui n'est pas une ambition littéraire, mais qui est liée au désir de changer la vie, avec cette révolution qui sera enfin le renversement de tout ordre établi et l'avènement de ce qu'il appelait lui-même une constitution communiste, bien entendu, au sens de Blanqui, c'est-à-dire où enfin les hommes seront libérés de toutes les contraintes et retourneront à l'état de nature, en quelque sorte avec des... pour ce que l'on en sait, dans la mémoire de son ami Delahaye, avec simplement des assemblées régionales, où enfin ils seront dispensés de tout ordre. Alors, il y a cette conjonction qui dure quelques semaines, et naturellement, l'écrasement de la Commune, qui fut extraordinairement sanglant et extraordinairement bouleversant, notamment pour un jeune homme qui, de toute façon, qu'il est ou non, on ne pourra jamais le savoir, contribuer militairement, sans doute pas d'ailleurs, à la Commune. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas été un des glorieux combattants de la Commune. Ce qui est certain aussi, c'est que son cœur était de ce côté-là, et que ce cœur bave à la poupe, comme le dit un poème, c'est-à-dire qu'il en éprouve aussi profondément l'échec. Cet échec est celui du réel. Le réel échappe complètement. Avec la Commune, il est écrasé dans le sang, mais aussi l'expérience poétique qui est parallèle, sinon convergente, échoue tout autant. C'est-à-dire que probablement il comprend ce que la saison en enfer va expliquer, du reste à sa façon, que l'alchimie du verbe ne réussit pas à transformer le monde, le réel, la vie. Et c'était pourtant l'ambition de la poésie. Alors il est relativement simple de comprendre que cette ambition-là ne cesse pas et que la poésie n'en a été qu'un des moyens. Elle a été très exactement une entreprise et Rimbaud ne cesse de s'engager dans toutes sortes d'entreprises, non pas seulement pour changer la vie collectivement, mais pour en finir avec les conditions originelles.
À Georges Isambard, Charleville, 13 mai 1871. Je me dois à la société, c'est juste et j'ai raison. Vous aussi, vous avez raison pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective. Votre obstination à regagner le râtelier universitaire, pardon, le prouve. Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant rien voulu faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, j'espère, bien d'autres espèrent la même chose, je verrai... dans votre principe, la poésie objective, je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris. Travaillez maintenant. Jamais, jamais, je suis en grève. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. vous ne comprenez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. « Je » est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violent et nargue aux inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait.
Il faut reprendre les grandes déclarations et se rappeler par exemple celle-ci, qu'il s'agissait dans son adolescence, je cite donc, d'un long et raisonné dérèglement de tous les sens, et que dans un des sens de sens, c'est sans signification. C'est-à-dire que bien entendu, il s'agit de l'encrapulement et de l'usage de certaines drogues, mais le dérèglement des sens, c'est aussi le dérèglement des sans-significations. Il faut aussi se rappeler la réponse à sa mère, à une question du type « qu'est-ce que ça veut dire ?» Réponse, c'est à lire et apprendre littéralement et dans tous les sens.
Je reprends. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Le bateau ivre. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur.
Il y avait aussi, le long de la Meuse, un peu plus loin, des tanneurs qui, sans doute, coloraient la Meuse déjà violette et favorisaient peut-être la vision du bateau ivre. L'important, c'est que ce bateau ivre a été écrit en 1871, en septembre ou en fin août, lorsque Rimbaud écrit à Verlaine, et qu'il est conçu comme un prototype. C'est l'arme absolue avec laquelle Rimbaud va conquérir Paris. Et il y a deux choses très importantes. La première, c'est que ce bateau ivre est l'œuvre modèle qui devrait être ce que sera la poésie moderne, c'est-à-dire quelque chose de mieux. Et il faut considérer que mieux est égal à nouveau. Nouveau et mieux, c'est la même chose. C'est une association qui est actuelle encore, mais qui n'était pas du tout évidente dans une France rurale. Mieux égale nouveau. La poésie moderne doit être absolument moderne. Elle doit surpasser les formes classiques, donc casser l'alexandrin, donner des visions nouvelles et surtout se passer du com qui va donc être réclamé par Banville. Pourquoi vous n'écrivez pas com, je suis comme un bateau ivre, lui dit Banville, et Rimbaud l'aurait traité de vieux con. Et il faut aussi considérer que ce bateau ivre va être dépassé par Rimbaud lui-même et se rappeler que Verlaine disait dès décembre 71 que Rimbaud dédaignait son bateau ivre.
Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts, où, flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend.
Jean-Marie Turpin.
Voici la première partie du texte de l'évangile de Jean. Il est à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine appelée en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Sous ceux-ci gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, perclus, qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine, et l'eau s'agitait. Alors le premier qui y entrait, après que l'eau avait été agitée, était guéri de son mal, quel qu'il fût. Saint Jean atteste donc qu'avant le miracle du Christ, cette piscine était un lieu miraculeux en soi, et que le miracle que le Christ va produire, en s'adressant à un paralytique qui lui explique qu'il ne peut bénéficier du premier miracle parce que personne ne veut le jeter dans la piscine, et qu'il arrive toujours trop tard, quand l'eau vient à s'agiter, eh bien, ce miracle du Christ est pour ainsi dire seulement essentiel parce que chargé d'un sens. Un sens que le Christ dira un peu plus tard et qui lie la guérison du paralytique à l'injonction de ne plus pécher. C'est exactement ce que Rimbaud refuse. Il refuse premièrement le lieu comme miraculeux. Le lieu n'était pas miraculeux. Et deuxièmement, par conséquent, le miracle du Christ est premier. Et il n'impliquait aucune injonction éthique, ni même aucune parole. C'est un miracle par pure présence et voyance du Christ. Cette exégèse rimbaldienne, pour étrange qu'elle soit, n'aurait évidemment pas grand intérêt si le gnosticisme qu'elle implique ne se réalisait pas dans un texte où Rimbaud, se mettant, pour ainsi dire, à la place du Christ, voit que et comment le lieu de Bethsaïda n'est pas plus miraculeux que le fait même de voir, au sens fort de la voyance, et que le miracle christique tient tout entier dans le fait qu'il voit. Qu'il voit, donc c'est là l'énormité, qu'il voit comme Rimbaud voit. Tandis que saint Jean n'aurait, en somme, rien vu. Bethsaïda, la piscine des cinq galeries, était un point d'ennui. Il semblait que ce fût un triste lavoir, toujours accablé de la pluie et moisi, et les mendiants s'agitaient sur les marches intérieures blêmies par ces lueurs d'orage, précurseurs des éclairs d'enfer, en plaisantant sur leurs yeux bleus aveugles, sur les linges blancs ou bleus dont s'entouraient leurs moignons. Ô buanderie militaire, ô bain populaire, l'eau était toujours noire, et nul infirme n'y tombait, même en songe. C'est là que Jésus fit la première action grave, avec les infâmes infirmes. Il y avait un jour, de février, mars ou avril, où le soleil de 2 heures après-midi laissait s'étaler une grande faux de lumière sur l'eau ensevelie. Et comme là-bas, loin derrière les infirmes, j'aurais pu voir tout ce que ce rayon seul éveillait de bourgeons et de cristaux et de verres, dans ce reflet, pareil à un ange blanc couché sur le côté, tous les reflets, infiniment pâles, remués. Donc, ce premier mouvement du texte montre que l'acte de voyance de Rimbaud se substitue au premier miracle et est le premier miracle. Et quant au miracle que va faire le Christ, eh bien, au fond, il est secondaire relativement au miracle de voyance que fait Rimbaud. Jésus entra aussitôt après l'heure de midi. Le divin maître se tenait contre une colonne. Il regardait. Le paralytique se leva, qui était resté couché sur le flanc, et ce fut d'un pas singulièrement assuré qu'ils le virent franchir la galerie et disparaître dans la ville.
Alain Jouffroy.
À mon avis, il voit. Il parle toujours de ses vues, la vue du génie. Les vues, c'est un peu comme les vedute en italien, c'est-à-dire c'est des transformation du paysage mental en paysage physique. Finalement, quand il voit, il parle de choses qu'il a vues, mais quand il dit qu'il voyait une mosquée au fond d'un lac, il est bien évident qu'il n'a pas vu une mosquée au fond d'un lac, qu'il n'y a pas de mosquée au fond d'un lac. Mais il a vu mentalement cette possibilité et il en a fait ce paysage. Alors, mon interprétation, qui est plutôt une interrogation, une hypothèse, c'est que, puisqu'il aimait tellement les gravures qu'il en a même laissé chez Forain, et Forain les a déménagées quand il est parti de Paris avec Verlaine, toutes ces gravures que collectionnait Rimbaud, je ne sais pas s'il les chipait dans les hautes ventures des librairies, c'est bien possible, en tout cas elles valaient rien, on trouvait des gravures pour rien, partout, et il achetait des vues de ports, des vues d'architecture, de tous les pays. Et donc il pouvait mélanger fort bien les gravures en les regardant simultanément. Et j'ai même émis l'hypothèse qu'il pouvait les regarder par transparence en les collant avec deux mains contre une fenêtre pour superposer. Parce que sinon, comment expliquer cet embouteillement, cet embouteillage d'images différentes, divergentes dans un même poème, où on est à la fois à New York et puis dans une ville orientale ou à Stockholm. C'est-à-dire qu'il y a superposition de différents ports, de différentes tours, de différents ponts. Il y a une imbrication des capitales, une sorte de vision unitaire de toutes les métropoles qui procède d'une vision simultanée du réel. Ce que j'appelle faire le tour de la Terre à chaque seconde dans sa pensée.
Reviens. Tu retrouveras toutes tes affaires. J'espère que tu sais bien à présent qu'il n'y avait rien de vrai dans notre discussion. L'affreux moment. Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas? Nous avons vécu 2 ans ensemble pour arriver à cette heure-là. Que vas-tu faire? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te trouver où tu es? Oui, c'est moi qui ai eu tort. Oh, tu ne m'oublieras pas, dis. Non, tu ne peux pas m'oublier. Moi, je t'ai toujours là. Dis, réponds à ton ami. Est-ce que nous ne devons plus vivre ensemble? Sois courageux, réponds-moi vite. Je ne puis rester ici plus longtemps. N'écoute que ton bon cœur. Vite, dis si je dois te rejoindre. À toi, toute la vie. Rimbaud. À Paul Verlaine, Londres, vendredi après-midi, 4 juillet 1873.
Quand on parle de deux Rimbaud, comme faisait Ségalène ou d'autres, on a raison, mais alors, est-ce que c'est forcément le premier qui serait le bon?
Dominique Nogaz.
Moi, je suis frappé, justement, puisque j'ai passé un mois à chercher toutes les paroles qui lui sont attribuées dans les textes des contemporains, dans les témoignages des gens qu'il a connus. Je suis frappé par toutes les méchancetés dont il était capable, tout le côté voyou, mais alors vraiment sordide. Même, bon, il y a le témoignage, par exemple, de Mathilde Verlaine, qui est très, très partiale et qui doit en rajouter sur la méchanceté. Mais enfin, elle cite une anecdote qui lui est rapportée par Charles Cros, qui n'était pas au début défavorable à Rimbaud, loin de là. C'est l'histoire de... Ils sont au café, Verlaine, Rimbaud et lui, Charles Cros, et tout d'un coup, Rimbaud dit à Verlaine et à Cros de mettre leurs mains sur la table. Et à ce moment-là, il sort un couteau, déjà tout ouvert, et il commence à taillader les poignets de Verlaine. Ça, c'est la version de Mathilde Verlaine. Et ensuite, il aurait même donné des coups dans les cuisses. Enfin, bon. Je crois que peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce simplement une de ces distractions de buveurs de café, de buveurs qui consiste à se faire passer une lame entre les doigts. C'est un exercice que beaucoup de collégiens ont fait. Alors peut-être que c'était ça et que Mathilde Verlaine a rapporté le propos de façon désobligeante. Mais enfin, il y a un sadisme manifestement qui n'est pas invraisemblable et qu'on retrouve dans plusieurs anecdotes qui concernent Rimbaud. Cette volonté de se faire détester, d'être vraiment le méchant.
Le génie du mal.
Oui, un archange du mal. Alors le premier Rimbaud, ça serait peut-être le mauvais, le plus méchant en tout cas. Ça serait Lucifer. Et le deuxième, on pourrait l'imaginer au contraire plus rasséréné, en tout cas plus... Il y a des témoignages sur sa période éthiopienne où on dit qu'il fait... Il fait le bien autour de lui, enfin, il est apprécié par les gens avec qui il travaille. Alors vous voyez, on pourrait imaginer là Rimbaud plutôt presque en train d'expier.
Qui se rachète,
mais enfin ce seraient des termes chrétiens et je ne crois pas qu'on soit tout à fait dans une problématique chrétienne.
Ah, encore, je danse le sabbat dans une rouge clairière avec des vieilles et des enfants.
Où écrit-il Une saison en enfer? Dans quel paysage? Dans quel contexte?
Sans doute hors de tout paysage, mais enfin le décor, ce serait la ferme de Roche, ferme familiale qui se trouve à quelques kilomètres de Charleville, dans la campagne violette des Ardennes, et avec le poignet gauche ensanglanté, et au cours de l'été 1873, puisqu'il est daté avril-août 1873, mais c'est en quelque sorte un autre décor que cette atroce campagne, comme il dit, et que celle de la ferme. Parce qu'il y a une dimension dramatique au sens classique, c'est-à-dire du théâtre. Mais le théâtre, il faut concevoir qu'il est non pas un dialogue, c'est toujours un contresens de le représenter sous forme dialoguée, mais sous forme ventriloque, c'est-à-dire triangulaire. Il y a la voix dans la voix, ce que l'on entend dans La Vierge folle et L'époux infernal, et qui s'adresse à un troisième ou qui fait partie d'un troisième cercle concentrique qui est le moi du début. Mais naturellement, le ventriloque parle la voix de Verlaine. Et il est ce que Rimbaud a dit à Verlaine. Et il faut l'entendre biographiquement, directement, explicitement, comme ça, sans quoi on n'y comprend rien du tout. Il y a en effet cette triangulation qui est de l'ordre du drame. Parce que le dialogue n'est pas du tout de l'ordre du drame. La théâtralité est triangulaire. Et c'est ce décor-là qui n'est pas celui de Roche, mais qui est celui d'un drame qu'il a vécu et réellement au cours de cette année-là, puisque c'est après le fameux drame de Bruxelles où Verlaine tire quelques coups de pistolet, enfin trois, sur Rimbaud, mais aussi l'échec d'une tentative qui fut la tentative homosexuelle de vie en commun avec Verlaine, à Londres en particulier.
Une tentative pour
un échec. Oui, c'est un échec. Un échec grandiose, si l'on peut en parler au sens esthétique, parce que on ne le comprend pas comme les autres entreprises de Rimbaud en le rabaissant. Il n'est pas seulement une expérience homosexuelle, comme l'a cru par exemple Georges Isamba. C'est explicitement, et c'est Rimbaud qui le dit dans Vagabond par exemple, le désir et rien d'autre de rendre Verlaine à son état primitif de fils du soleil. Tel est l'échec. Et cet échec se retrouve aussi bien dans la vie que dans l'œuvre. L'œuvre est un échec absolu.
Parce que Verlaine ne suit pas
Oui, parce que Verlaine ne suit pas.
Verlaine n'est pas à la hauteur.
Il n'est pas à la hauteur. Chacun a son problème. Le problème de Verlaine, c'est la sagesse. Il n'y arrive jamais non plus. Mais encore, serait-il disposé à suivre Rimbaud dans cette expérience, pas seulement homosexuelle, mais métaphysique, de changer de corps et de le rendre à cet état primitif, c'est-à-dire de le rendre avant les conditions bibliques, qu'il n'aurait pas non plus réussi. Et personne n'a réussi, ne pouvait suivre Rimbaud durablement, longuement, longtemps. On ne peut pas le suivre dans cette exigence absolue. Et lui-même, au fond, n'a pas pu se suivre ou se survivre non plus dans cette exigence-là. Il faut concevoir l'homosexualité comme ce désir d'en finir avec la séparation des sexes. Elle est dite dans certains poèmes, ce cœur, dans Antique des Illuminations, ce cœur où bat le double sexe. C'est celui auquel Rimbaud aspire, qui est d'en finir avec la séparation des sexes, c'est-à-dire que l'homosexualité a été l'une des tentatives dans cette direction, et les vouer à l'échec de la même façon que l'expérience de vie en commun avec une belle Abyssine en 1884 ne pouvait pas non plus réussir, et l'Abyssine est rejetée sur son boutre au bout de 6 mois, de la même façon au fond que Verlaine est abandonné à Stuttgart, roué de coups probablement au bord d'une écart.
Nuit de l'enfer. Et c'est encore la vie. Si la damnation est éternelle, un homme qui veut se mutiler est bien damné, n'est-ce pas ? Je me crois en enfer, donc j'y suis.
Il y a chez lui la nostalgie d'un paradis perdu. Elle est dès le début d'une saison d'enfer, jadis si je me souviens bien. Et il faut quand même se rappeler que c'est un jeune homme de 19 ans qui dit jadis, toujours avec cette propension à l'excès ou à l'hyperbole.
Mais il se sent vieux, et même mort.
Il
dit qu'il est d'outre-tombe.
Oui, et c'est vrai que ce temps passe très vite pour lui qui fut toujours un homme pressé et qui a déjà dépassé toutes les formes dites anciennes de la poésie à 19 ans. Mais ce jadis renvoie à un moment immémorial, explicitement immémorial, et l'enfer, c'est non pas du tout la définition moderne, l'enfer c'est d'être dans ce corps et dans cette situation-là, c'est-à-dire d'être chassé du paradis. Une saison d'enfer, c'est d'abord aussi le livre nègre, c'est-à-dire la certitude de notre négritude. Voilà une chose qui n'est pas comprise généralement, parce qu'elle est très simple. Rimbaud parle du nègre de façon littérale. Cela peut se vérifier facilement. Lorsqu'il parle des sales nègres en Abyssinie, il les insulte vraiment. Il y a même quelque part une sorte de laisser-aller dans l'idée d'appeler les noirs, qui sont rouges d'ailleurs d'Abyssinie, des sales nègres. On reconnaît ses colères habituelles, ses emportements, ses excès. Mais, dans les phrases suivantes, il dit aussi que ces sales nègres en question ne sont pas plus canailles que les nègres blancs des pays soi-disant civilisés.
Lui-même s'appelle un nègre blanc.
Et que, voilà. Non, il ne s'appelle pas un nègre blanc. Il est nègre.
Il dit qu'il est nègre blanc.
Non, Verlaine le traite. Tous les malentendus est là. Verlaine le traite de nègre blanc, de sauvage splendidement. Mais lui n'est pas un nègre blanc, il est un nègre. Je suis une bête, un nègre. Il le dit, je suis de race maudite. Et c'est explicitement aussi qu'il traite les blancs de nègre blanc. Général, tu es nègre. Magistrat, tu es nègre. Commerçant, empereur, vieille démangeaison, tu es nègre. Le problème de la négritude, c'est que c'est simplement c'est l'esprit bourgeois qui oublie.
Nègre, tu es esclave. Enfin, c'est oui. Nègre dans le sens d'esclave.
Oui, d'esclave métaphysique, d'esclave originel, d'esclave de la fatalité de la vie, d'esclave de la punition de la marche, d'esclave du travail. Parce que le travail, c'est au sens étymologique de supplice que l'on doit endurer depuis l'origine. C'est de cela dont il voulait dès l'origine aussi se libérer. Quand j'ai dit l'origine, c'est dans les poèmes latins et dans le tout premier texte de 1864 qui s'appelle Conspecto et qui n'a pas été lu parce qu'il faut le lire dès les premières pages et pas seulement dès le prologue. Et nègre, ça veut dire que le blanc qui se croit blanc est un nègre. C'est-à-dire que le magistrat qui se croit magistrat est un nègre. Il a oublié sa fatalité originelle. Il a oublié sa malédiction.
Il est un poète qui se croit poète et nègre.
Absolument. Le médecin qui se prend pour un médecin, l'écrivain qui se prend pour un écrivain, ou le boulanger pour un boulanger, celui-là est perdu pour les hommes. Et il y a cette... L'oubli de la négritude fondamentale, c'est-à-dire c'est peut-être celle dont les hommes n'en font en général conscience qu'au dernier moment de leur vie, et qui fait que les hommes se croient quelque chose. Ils sont poètes. Et Rimbaud n'a jamais supporté de rencontrer des gens qui se prennent pour des poètes.
Et alors je reviens à sa façon de dire les vers. Est-ce que je peux vous lire là une petite phrase de Delahaye, son camarade d'adolescence ? N'ayant presque pas été au théâtre, ni reçu aucun enseignement de la diction, Rimbaud lisait ses vers sans emphase et sans éclat de voix, avec quelque chose de convulsif, ainsi qu'un enfant qui raconte un gros chagrin, et dans une sorte de hâte, avide, pressé de revivre tout cela. Sa voix nerveuse, encore enfantine, rendait naturellement la vibration et la puissance des mots. Il disait comme il sentait, comme c'était venu, comme en un jaillissement précipité de sensations violentes. Voyez, c'est la voix d'un émotif.
Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or, je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes, retour des pays chauds. Je serai mêlé aux affaires politiques, sauvé.
Moi, je verrais plutôt, je dirais que c'est quelqu'un qui crie. Je crois que l'image que nous a laissée Isabelle Rimbaud par l'intermédiaire du pauvre Paterne Berrichon, l'image d'Arthur arrivant à Roche après le drame de Bruxelles et montant au grenier de la ferme et puis s'enfermant pour écrire Une saison d'enfer. Et de temps en temps, on l'entend crier, hurler, on l'entend pleurer à certains moments. Cette image-là, elle me paraît plausible et elle me paraît très forte. Et c'est ainsi que je vois vraiment le plus grand Rimbaud, celui d'Une saison d'enfer. C'est un Rimbaud qui est dans le convulsif et le cri. Pas tellement le crachat, parce que dans le crachat, il y a trop l'idée d'une agression contre les autres. Il y a ça peut-être chez Rimbaud, mais pas seulement. L'agression est au moins autant contre lui-même. Est-ce qu'on peut se cracher à soi-même ?
Difficilement.
Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre sur la grève.
Il y a chez Rimbaud un rhétoricien extrêmement fort. Si vous voulez, il faut, d'une manière textuelle, il faut par exemple repérer des manières d'écrire qu'il a, pour parler simplement. Par exemple, il dit des choses comme « les prés remontent ». Ou alors il parle ailleurs d'une cathédrale qui descend. Mais la question que nous nous posons, c'est est-ce qu'une cathédrale a le droit de descendre ? Ou bien la jetée partie ? Ou bien c'est la mer allée avec le soleil ? Ou bien les eaux s'élargissent, les eaux OS, les eaux s'élargissent ? C'est-à-dire que tout bouge à l'intérieur du texte. Alors, en rhétorique, on pourrait appeler, je m'excuse de ces mots, mais c'est très important de s'en servir. Il y a comme une sorte d'hypallage généralisé dans le texte de Rimbaud. C'est-à-dire, il y a du mouvement. Et on ne sait pas s'il faut l'attribuer, disons, au sujet, c'est-à-dire à celui qui écrit, ou bien au narrateur, c'est-à-dire s'ils sont des mouvements de la perception, ou parfois des mouvements de l'écriture, des notations de mise en scène de la scène qu'il décrit, mais qui sont incorporées dans le texte, ou bien si ce sont des mouvements que nous, lecteurs, nous pouvons halluciner, ou bien si nous devons chercher à les objectiver. Mais disons, il y a de l'hypalage, dirait un rhétoricien. Il y a aussi une autre manière de faire qui est extraordinairement troublante, c'est ce qu'on appelle en rhétorique le zeugma. Arthur Rimbaud est un expert du zeugma, c'est-à-dire le mot un peu plus fréquent pour cette figure de style, c'est l'attelage. On a des séquences comme celle-ci, lune et comète, virgule, mer et fable. Alors, ça veut dire qu'il met ensemble, d'où l'expression d'attelage, des choses, disons, qui sont disparates, qui sont hétérogènes. On a, semble-t-il, une série lune, comète, mer, et puis tout à coup, on a la fable. Et ailleurs, il y a une expression fameuse où il s'agit d'affection et bruit neuf. Affection et bruit neuf. Et d'ailleurs, le zeugma est pour ainsi dire signé parce qu'il met neuf au pluriel, c'est-à-dire l'adjectif porte sur les deux, affection et bruit neuf. Ailleurs, on a c'est constant, on a un enchaînement malheureuse et manœuvre. Tout ça, c'est une manière de mettre ensemble des choses surprenantes. Et si je demande à quelqu'un, en sortant du contexte, une phrase comme celle-ci, l'éclairage revient à l'arbre de bâtisse. Ça a l'air très simple, l'éclairage, c'est une phrase grammaticale, l'éclairage revient à l'arbre de bâtisse. Bon, ça vous laisse assez pantois. Ou bien, j'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable et le sang. D'une certaine manière, c'est d'une opacité spéciale qui n'est pas terminologiquement difficile, qui n'est pas syntaxiquement inanalysable, mais cela est livré à une espèce, je ne sais pas, une interprétation, mais enfin à une lecture sans, pour laquelle, disons, il n'y a pas d'interprétation qui serait définitive.
Après le déluge, illumination. Aussitôt après que l'idée du déluge se fut rassise, un lièvre s'arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Oh, les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà. Dans la grande rue sale, les étals se dressèrent, et l'on tira les barques vers la mer, étagées là-haut comme sur les gravures.
Alors pourquoi Rimbaud est déçu par la poésie? Pourquoi est-ce qu'il la lâche?
Et vous me demandez ça à moi, mais je n'en sais strictement rien. Non, mais toute la littérature rimbaldienne sur Rimbaud tourne autour de cette question. Là, vous ne voudriez tout de même pas qu'en 3 minutes, je vous trouve une réponse qui ferait oublier justement les incertitudes, les ambiguïtés, les contradictions qu'il y a chez tous les commentateurs. Je crois qu'on est réduit aux conjectures.
Non, mais vous avez le temps. Vous pouvez prendre votre temps, plus que 3 minutes.
Alors donnez-moi 3 ans. Au moins.
Bremen, the 14 May, 1877. The undersigned Arthur Rimbaud, born in Charleville, France, aged 23. 5'6", good, healthy, late teacher of sciences and languages, recently deserted from the 47th Regiment of French Army, actually in Bremen without any means, the French consul refusing any relief.
Alain Borer, quel est le vrai lieu de Rimbaud?
Il est dans Vagabond, par exemple, un très beau poème des Illuminations. Il est formulé. Au terme de ce poème, Rimbaud dit « Moi, pressé de trouver le lieu et la formule ». Le lieu est... Qu'est-ce qu'un lieu, donc? Il faut d'abord observer que Rimbaud a toujours marché. C'est la première constatation sur laquelle tout le monde devrait pouvoir se mettre d'accord. Il ne séjourne nulle part.
Oui, mais c'est trop facile de dire, comme la phrase de Jarry, la scène se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. C'est pas non plus nulle part, c'est sur Terre. Il n'y a pas de vrai lieu.
Il n'y a pas de vrai lieu. Ou alors, c'est peut-être le moment, ce lieu, le moment où il passe de l'un à
l'autre.
Oui,
c'est le passage, ouais. Oui. C'est un homme de passage, c'est un homme qui ouvre des passages. Et qui transforme la vie en passage. Mais en passage actif, pas en passage
passif, c'est-à-dire « Ah, ce n'est qu'un passage, on ne fait que passer sur terre ». C'est pas ça, un passage, c'est-à-dire un pont, n'est-ce pas, qui jeté sur une rive qui n'est pas encore atteinte. Ça, oui, ça c'est le lieu, c'est le pont jeté sur le vide.